Alors effectivement, ça a été un long travail, parce que ça fait plus de 6 mois qu'on nous a branchés sur cette question. Ce qui se passe au bout de 6 mois, c'est que j'ai tellement réfléchi à la question, j'ai tellement échangé avec Denis, que j'ai l'impression que tout ce que j'ai exploré et tout ce que je sais, vous le savez aussi. Donc je ne sais pas trop par quel bout on va commencer. Et en fait, quand j'ai regardé le titre, au départ, moi, je ne vais peut-être pas parler d'homosexualité. C'est-à-dire que le temps, je vais avoir un temps, je vais intervenir assez brièvement, en fait. Après, on va faire un temps de partage. Et là, je serai beaucoup plus à l'aise pour répondre aux questions qui reviendront du temps de partage. Et je pense qu'effectivement, les questions seront peut-être plus centrées sur l'homosexualité. Alors qu'au départ, je vais poser juste 2 items. Au départ, on avait pensé faire comme on avait fait précédemment, c'est-à-dire vous demander des mots-clés, etc., mettre des post-it, et puis on s'est dit que ça nous prendrait beaucoup, beaucoup trop de temps, donc ce n'était pas jouable comme ça. Donc je vais juste poser, 2 items. L'idée, par rapport au chemin de vie, moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup plu dans mon travail, c'est « Pourquoi sommes-nous toujours plus petits que nous-mêmes » C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que d'une certaine façon, on peut avoir à certains moments l'impression de ne pas se dépasser. Alors, tout à l'heure, Michel me demandait ma biographie. Alors, ça m'a amusé parce que je me suis dit, tiens, c'est une belle entrée en matière parce que je suis médecin. Au départ, j'étais diététicien, hein, spécialiste en médecine du sport, alors que je n'ai jamais touché un ballon ni je ne suis jamais allé sur un stage. J'exècre ça. Ce n'est pas grave, on peut être spécialiste quand même, s'occuper de sportifs. Après, j'ai fait de l'homéopathie, après, je me suis intéressé à la phytothérapie, après, je me suis intéressé à la psychanalyse, je suis addictologue, je suis tabacologue, je me suis occupé d'anorexie mentale, je suis suicidologue, alors on n'a pas beaucoup de clients, et puis je fais des thérapies de soutien, après, je me suis formé à l'animation de groupe, et aujourd'hui, j'ai arrêté mon activité libérale, c'est-à-dire que je ne vois plus de patients ni en homéopathie, en bobologie, comme je dis, ni même je ne vois plus de patients en thérapie de soutien et je ne fais que de l'animation de groupe de parole dans des structures hospitalières, en service de soins palliatifs, en oncologie pédiatrique et puis au centre d'IVG. Donc des centres, et puis, par ailleurs, je travaille dans une institution avec des enfants handicapés mentaux. Donc vraiment, voilà. Alors c'est amusant parce que, comme Michel me demandait, je dis, au niveau de l'état de vie, j'aurais pu effectivement passer mon doctorat en médecine, m'installer sur mon siège, comme je ne l'ai pas fait là, et faire dans l'angine pendant 35 ans de carrière. Ça ne m'intéressait pas du tout, j'ai tout le temps bougé, et ce qui m'intéresse, c'est vraiment toujours une mise en chemin, c'est-à-dire chaque fois qu'on rencontre quelque chose, que ce soit une occasion de, hop, un coup à droite, un coup à gauche, aller explorer d'autres voies. C'est pour ça que je vais vous parler que de 2 choses, très brièvement, avant les groupes de partage, 2 petits points. D'une part, des équilibres statiques et des équilibres dynamiques, et puis un petit point sur la liberté. Tout le reste, je l'aborderai, tout ce sur quoi j'ai réfléchi, je l'aborderai si les questions se présentent. Et j'ai matière à parler de beaucoup de choses. Les équilibres statiques et les équilibres dynamiques, ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est un principe de physique tout simple. Hein. J'aime pas parler. Pour qu'un objet soit en équilibre, le meilleur équilibre, c'est les 3 points. C'est-à-dire quand vous prenez un trépied, il est parfaitement stable. Hein. Une petite tabouret pour traire, hein, c'est par 3 points, ne passe qu'un plan. Hein, on a appris ça en maths. Donc c'est parfaitement stable. C'est ce qu'on appelle un équilibre parfait. L'inconvénient de l'équilibre parfait, c'est qu'il est stable, mais il ne bouge pas. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais par rapport à être médecin, une famille, faire de l'angine, c'est stable, on a sa clientèle, on gagne sa vie, mais ce n'est pas très enrichissant. Et puis, un autre équilibre, c'est l'équilibre qu'on a quand on marche. Et moi, j'ai fait beaucoup de danse sur glace, alors je connais bien. Pour ceux qui ne sont jamais montés sur la glace, je vous signale qu'on ne patine que sur un seul pied. Ça ne se voit pas parce que l'autre frotte, mais on est toujours sur un pied. Pourquoi ? Parce que sur la glace, on est toujours sur un pied et on tombe sur l'autre. Et une fois qu'on est tombé sur l'autre, on retombe sur l'autre. Si on est sur les 2 pieds, au moment où on tombe, on n'a plus que les fesses. Hein. Ce n'est pas possible. Donc l'équilibre dynamique, ça consiste simplement, en fait, à être toujours en déséquilibre. Et ce déséquilibre nous pousse à reposer l'autre pied et à reposer le pied et à recharger sans arrêt notre équilibre, c'est très casse-gueule, mais ça nous fait avancer, alors que le trépied, lui, n'avance pas. Et dans la vie, il y a un autre principe, alors qu'on travaille avec les dirigeants d'entreprise, c'est les dirigeants légaux et les dirigeants Playmobil. Je ne sais pas s'il y en a qui s'occupent de management, mais c'est pareil, les dirigeants légaux, bah, c'est ceux qui s'emboîtent bien. Alors, c'est très structuré, c'est très solide, mais ça n'avance pas. Et puis les dirigeants Playmobil, bah, c'est ceux qui bougent, qui s'animent, qui vont vers les autres et qui font avancer leur entreprise. Alors évidemment, les deux ont des qualités. Hein. Mais donc la question qui reviendra tout à l'heure, c'est de savoir si dans sa vie, on est sur le mode équilibre statique, en toute sécurité, hein, on ne bouge pas. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce film délicieux qui s'appelle les émotifs anonymes, Jean Béguet. Et il y a un moment, le garçon qui est très 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 timide dit « La devise de mon père, c'était « pourvu qu'il n'arrive rien ». ». Alors on peut l'entendre dans les deux sens, « pourvu qu'il n'arrive rien de fâcheux », mais en même temps « pourvu qu'il n'arrive rien dans la vie ». C'est-à-dire que rien se produit. Si on ne prend pas de risque, ça ne bouge pas. Mais on est en sécurité, on est sur trois pieds. Ça, je pense qu'on le reprendra, et je vous lance comme piste, parce que c'est vraiment ce qui va faire l'écart. Et avec Denis, on s'était posé la question, parce que le thème au départ, c'était état de vie, et moi, ça ne me parlait pas du tout, le thème état de vie. Ce qui m'intéressait, c'était chemin de vie. Et c'est pour ça que je vous développe cet exemple des équilibres statiques et des équilibres dynamiques, puisque ça fait tout l'écart dans le titre de cette réunion, entre les états de vie et les chemins de vie. Sachant qu'au final, on va quand même. L'idéal, c'est d'aller de l'un à l'autre, c'est-à-dire de temps en temps de revenir dans les équilibres statiques et savoir se remettre en risque et en mouvement. Le deuxième point, alors qui m'est venu à la lecture de Xavier Thévenot dans Mon enfant est homosexuel, que beaucoup ont dû lire, qui est un livre qu'il faut avoir lu, qui à son époque était révolutionnaire, qui est. Moi, à mes yeux, je l'ai relu récemment, c'est plein de choses qui ne collent plus du tout, mais bon, il faut lire quand même. Et Xavier Thévenot pose, et je m'en suis servi pour le flyer de Dweck sur Angers, le « qu'est-ce qui m'arrive ?», c'est-à-dire lorsqu'on prend conscience de son homosensibilité, et là je vais parler un peu d'homosexualité tout de même, c'est ce « qu'est-ce qui m'arrive ?», le « ce », c'est du côté de l'objet, et le M', c'est du côté du sujet. C'est-à-dire, d'un seul coup, il y a cette confrontation d'un objet, que serait l'homosensibilité, l'homosexualité, qui serait quasiment extérieur à nous, et qui nous arriverait sur nous comme sujet. Et la question qui va se poser à partir de là, c'est, eh bien, effectivement, qu'est-ce que moi, comme sujet, je vais faire de cela? Et pour faire quelque chose de cela, ça pose la question fondamentale de la liberté. Alors, la liberté, elle est... En France, on est très partisans de Descartes. On ne va pas dire qu'on est cartésien, parce que le malentendu autour de cet adjectif est épouvantable. Je n'en parlerai pas, mais ne dites pas que vous êtes cartésien. Les gens disent souvent qu'ils sont cartésiens quand ils sont rigoristes ou perfectionnistes, ce qui n'a absolument rien à voir. Mais Descartes reprend la notion du libre-arbitre. Libre-arbitre largement développé par saint Augustin. C'est-à-dire que nous serions dans nos actes dirigés par notre volonté. Ce qui est absolument nécessaire chez saint Augustin, car si nous ne sommes pas volontaires de nos actes, il n'y a plus de péché. Donc il faut poser quasiment pour... et le péché et la sotériologie, l'idée que nous avons un libre arbitre et que ce que nous allons poser de nos actes répondent à une décision personnelle et à notre volonté propre. Opposé à cela, il y a effectivement la notion du déterminisme, qui est plus repris par Spinoza. J'aime bien cette phrase, bon, sans faire le pédant, mais elle est pas de moi, elle est belle et elle est très très simple. Spinoza dit... Les hommes se croient libres d'ignorer les causes qui les déterminent. C'est-à-dire qu'on se croit libre de faire ceci ou de faire cela, alors même que nous sommes entièrement conditionnés par un grand nombre de causes. Alors ça peut être des causes socioculturelles, ça peut être des causes religieuses, ça peut être des causes d'une homosensibilité, hein, qui vont effectivement nous pousser à poser un certain nombre d'actes. Et ces actes, effectivement, est-ce que ces actes sont libres dans la mesure où ils sont déterminés par des causes qui nous sont imposées d'une certaine façon? L'enjeu de la philosophie, c'est toujours fait dans ce tiraillement entre le libre arbitre et le déterminisme. Et justement, la liberté se dessine là, se dessine, certes, nous sommes déterminés, mais notre liberté se dessine dans cette zone de transgression de notre déterminisme. Comment prendre conscience que nous sommes déterminés, que nous ne sommes pas du côté du libre arbitre, inutile de nous leurrer, mais que ces déterminismes, nous allons pouvoir les transgresser, nous allons pouvoir les renier. C'est ce qu'on enseigne, par exemple, lorsqu'on dit qu'il faut donner un cadre aux enfants. Pourquoi il faut donner un cadre aux enfants? Simplement pour qu'ils puissent transgresser. Parce qu'en fait, toute l'expression du sujet, toute expression de la personnalité, et en particulier toute expression de l'art, se fait dans cette transgression. C'est-à-dire au moment où on vous donne un cadre, bon, pour l'art, c'est un, imaginez pas un tableau, mais on vous donne un cadre et vous allez transgresser. A l'inverse, la transgression ne veut pas dire que ce soit de l'art. Hein. C'est-à-dire que les gens qui transgressent, et puis tu crois qu'ils font de l'art, c'est pas de l'art. Un enfant qui transgresse en croyant qu'il est libre, il n'est pas forcément libre non plus. Mais pour être libre, il faut aller du côté de la transgression. Il faut aller, et c'est là que c'est important, non pas lorsque vous posez la question très naïve à n'importe qui, vous dites pour vous, c'est quoi la liberté? Vous posez la question. 9 fois sur 10, les gens vous répondent, c'est faire ce que je veux. Alors, il y a un petit jeu, je vous le conseille, il est amusant. Vous dites, ok, on va jouer au dictionnaire. Dans le dictionnaire, un enfant qui fait que ce qu'il veut, comment ça s'appelle? Et effectivement, on vous répond, bah, c'est un enfant capricieux. Ce n'est pas du tout un enfant libre. Je vous dis au passage que caprice, ça devient le caprin, la chèvre, hein, qui fait que ce qu'elle veut. Ceux qui ont eu des chèvres, ça, bah, quoi s'en tenir. Donc, faire ce que l'on veut, ce n'est pas de la liberté, c'est du caprice. Pour commencer un débat sur la liberté, j'ai déjà animé, une époque je m'occupais d'un café philo, et c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup, j'aime bien démarrer en disant, la liberté ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est vouloir ce que l'on fait. Ça, c'est juste un démarrage, hein. Il est évident que ça ne peut pas être considéré comme une définition de la liberté, c'est juste un petit démarrage pour vous dire, j'inverse, et là on peut les équilibres dynamiques. C'est-à-dire, au lieu de partir d'une idée, on l'inverse et on se dit qu'est-ce que ce serait que de vouloir ce que je fais. On revient sur Saint-Augustin et sur la volonté. Mais après être repassé par le cadre de la transgression, par le cadre du faire ce que je veux et en revenir parce qu'on voit que ça ne marche pas. Toujours ces mouvements, et c'est ce dont il va être question cet après-midi avec moi, et demain avec Denis, et demain après-midi avec nous deux, puisqu'on reprendra les questions ensemble, c'est toujours c'est ce va-et-vient entre un état de vie, des chemins de vie, qui nous ramène à un état de vie, qui nous demande, comme Abraham, quitte ton père et ta mère et mets-toi en chemin, tout le temps, tout le temps. Et on cherchait un thème avec Denis, et Denis vous parlera, sans empiéter sur son domaine, vous parlera de Pierre, de Saint-Pierre, demain. Et on l'a vu dans l'Évangile, Saint-Pierre se met en chemin, il est pêcheur avec son père et son frère, et d'un seul coup, le Christ passe, et hop, il lui dit, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et il se met en chemin. Et Saint-Pierre ne fait que ça dans les Évangiles. Vraiment, ça m'intéressait avec sous l'impulsion de Denis de revoir dans les Évangiles comment ça se passait, comment Pierre arrête. Fait que ça, c'est-à-dire qu'il se met en chemin avec le Christ, et puis il essaye de se situer, et puis le Christ le repousse à se mettre en chemin, et ça se fait, c'est absolument passionnant, le personnage de Pierre, et Denis vous en parlera vraiment demain avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces deux études, donc état de vie, chemin de vie, équilibre statique, équilibre dynamique, liberté du côté du libre arbitre, et liberté du côté du déterminisme et le libre arbitre est toujours toujours, toujours cette espèce de balancier qui nous emmène d'un état à l'autre et qui nous rend dynamique. Alors, pour ça, c'est pour ça que j'ai dit que je ferai une introduction brève. Après, il y a plein de thèmes que je peux aborder avec vous, parce que depuis 6 mois, j'en ai brassé un paquet et ça m'a fait beaucoup travailler. On vous propose donc de vous retrouver en petit groupe de partage, comme on fait à chaque fois. J'ai préparé un pseudo-questionnaire à la demande d'Emmanuel. Le pseudo-questionnaire, je vous le lis, mais je les ai imprimés. Donc j'avais repris dans l'évangile de Jean, Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous savoir le chemin ?» Et le Christ répond « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » D'où 3 axes de questions, qui ne sont pas des questions, c'est pas un QCM, l'idée n'est pas de répondre aux questions, mais 3 axes. Qu'est-ce qui a surgi dans ma vie et qui m'a obligé à me mettre en marche? En quoi me suis-je mis en marche? Et qu'est-ce qui m'empêche encore aujourd'hui de me mettre en marche? Toujours les événements, en sachant qu'il y a toujours... On parlera des états... on en parlera. Il y a toujours, c'est très souvent quelque chose qui vient bousculer. Des fois, on est là de la situation dans laquelle on est, des équilibres statiques, mais la plupart du temps, il se produit quelque chose dans notre existence. Il se produit quelque chose qui ne dépend pas forcément de nous et que nous avons à saisir pour nous mettre en chemin, jusqu'à retrouver un équilibre, parce que c'est quand même plus reposant d'être en équilibre. C'est bien gentil de se mettre en chemin, mais il faut savoir aussi faire des étapes, des pauses, et être satisfait de son état. Et puis, à un moment donné, on se remet en chemin. D'où ces questions. Alors, moi, je vous invite à partager entre vous de ce que vous avez pu vivre, et puis on repartira vraiment sur la vie de chacun, et je répondrai avec ce qu'a fait, moi, quand même, je dirais presque mon métier pendant un paquet d'années, et en tous les cas, ma passion.